des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter des livres plein les oreilles et une fois encore des invités fantastiques, des livres plein de titres à vous suggérer, que des titres évidemment disponibles en version adaptée via le SQLA. Alors aujourd'hui à l'émission, nous allons retrouver avec grand plaisir Louise Boulanger qui nous parle d'un polar. En seconde partie, Gérard Saint-Denis va comme inaugurer une nouvelle série sur des livres consacrés à des artistes et plus précisément à des artistes de la chanson. Et aujourd'hui, ce sera Barbara qui sera à l'honneur. Barbara, dont nous aurions fêté, c'est pas fêté, c'est une façon de le dire, mettons célébré, rendu hommage, à qui on aurait rendu hommage parce qu'elle est décédée un mois de novembre. Et puis également à l'émission, des rubriques que vous connaissez, notamment des rafales, évidemment, des titres en rafale. Il y aura également l'extrait du jour consacré à une auteure que je vais recevoir aujourd'hui. J'en suis extrêmement contente. Elle est déjà en studio, c'est Anne-Marie Sicotte. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Et puis d'autres surprises. Tiens, vous verrez bien. Bonjour Louise.
Bonjour.
Comment ça va, Louise Boulanger? Ça fait un paquet de temps qu'on ne s'était pas parlé, hein?
Oui, je m'étais éclipsée pour me faire apprécier.
Ah! Eh bien, c'est réussi! On vous a attendu. Vous savez, là, c'est comme les vedettes. Hein. Les vedettes se font toujours attendre. Alors, effectivement, on vous a attendu, espéré. Louise, vous nous parlez d'une autre Louise et vous nous parlez d'un polar aujourd'hui.
Oui, je vous parle d'un polar de Louise Penny qui s'appelle « La faille en toute chose ». Disons, moi, ce que je te propose, c'est de se mettre un gros chandail, une veste à carreaux, notre tuque et nos mitaines, et se s'en aller vers le village de Tuipaine.
Vous me dites ça au moment où je me tape une petite chaleur, oui?
Si on dépêche, on devrait être rendu pour l'apéro de l'heure du souper. Déjà, à Tuipaine, les lumières de Noël sont là. Il y a eu une petite neige, c'est un petit peu plus frais. Disons que pour s'y rendre, il faut prendre l'autoroute des Cantons de l'Est, mais il faut sortir à une sortie qui est celle de l'imaginaire de Louise Penny, parce que les villages de Tuipaine n'existent pas. Il est inspiré de divers lieux comme Nautonne et Sautonne, différents villages des Cantons de l'Est.
Oui.
Et c'est là qu'en général, tous les protagonistes de ces romans finissent par se retrouver. Parce que malgré son air de village tranquille, il se passe beaucoup de choses à Tuipaine. Ce qu'on va voir dans la faille en toute chose, c'est que on a la libraire à une amie. Et tout à coup, son amie qui est supposée revenir la visiter pour les fêtes, elle a disparu depuis quelques jours, puis c'est pas dans ses habitudes. Son amie, il faut savoir qu'elle est la dernière des quintuplés Ouellettes. Les quintuplés Ouellettes, en fait, c'est inspiré des quintuplés Dionne, là, les fameux
Oui, 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 oui.
Mais c'est sûr que c'est pas leur vraie histoire, parce que dans le roman de Louise Penny, elles vont être assassinées. Il n'y a aucune sœur Dionne qui a été assassinée.
Non, elles n'ont pas...
Oui,
c'est ça. Elles n'ont pas eu un destin facile, mais elles n'ont quand même pas eu...
Ils sont encore vivantes. Là, personne ne les a assassinées. Ne portez pas de rumeurs. Elles mènent une vie tranquille de retraitée. Mais dans le roman de Louise Penny, la dernière des jumelles a été assassinée, mais par qui?
Ah.
Évidemment, quand l'enquête de Gamache est l'enquêteur principal là, de Louise Penny. Disons que Gamache est à Louise Penny, ce que l'effort est à Martin Michaud.
D'accord.
Mon gramme
à Madame Brouillette.
Madame Brouillette.
D'accord.
Et puis là, Gamache, on commence le livre, puis on dit, bon, ben, ça y est, on va avoir un meurtre. Un meurtre à élucider, c'est celui de Constance, la dernière des filles, Ouellette. Mais très vite, on va s'apercevoir que dans le roman, il se passe vraiment autre chose. Parce que déjà, dès le départ, on voit que Gamache, ça va pas bien dans sa vie de travail.
Allons
donc,
bon.
Là, parce qu'il semble avoir été mis de côté comme inspecteur-chef des homicides. semble avoir eu des conflits avec des confrères de travail. Et il y a des gens qui travaillent pour lui qui n'ont pas l'air à travailler trop fort, être très motivés puis trop sportifs.
D'accord.
On va voir tout au long du livre qu'il se passe quelque chose de très dramatique qui met en personne, disons, on va finir par comprendre que ça touche les hautes instances policières et les hautes instances gouvernementales, parce qu'il y a un drame qui est en train de se tramer, parce qu'il y a des gens, disons, qui ont des intérêts financiers, et si ça se reproduisait...
Vous n'êtes pas en train de me parler de corruption, vous, là?
Bien, disons que quand on lit ça, la commission Charbonneau, ça a l'air d'une partie de carte à la salle paroissiale un dimanche après-midi, là.
Oui, j'adore votre expression, Louise. Oui, d'accord.
Disons que là, je ne peux pas vous dire tous les détails de
non.
ce qui se passe parce que vous ne lirez pas le livre.
Non, c'est ça. Mais oui. J'ai une avis de lectrice ici. J'imagine que vous serez d'accord avec elle, qui nous parle carrément d'un petit chef-d'œuvre. Mais elle dit qu'il vient conclure en beauté la série des enquêtes de l'inspecteur chef Gamache. Ça veut dire que c'était son dernier?
Non, en fin de compte, on va voir dans les livres subséquents là, que j'ai pas lus. Moi, c'était le premier que je lisais là, de Louise Penny. Mais on va voir dans les livres subséquents qu'éventuellement, Gamin, je vais prendre sa retraite. Mais à Tulipine, évidemment, là, mais les circonstances de romans subséquents vont faire en sorte que Gamin revient. Là. Disons que c'est une fausse sortie.
C'est une fausse sortie.
Il a fait comme Jean-Pierre Ferland, il a dit qu'il prenait sa retraite, mais il ne l'a pas pris, là.
Oui, mais enfin bon, Jean-Pierre Ferland, quand même, il y avait des raisons de santé. Il y avait quand même... hein? On s'entend qu'au moment où il a fait ses, non pas un, mais deux ACV, hein, on se demandait vraiment s'il serait encore...
Il y avait des raisons financières qui l'ont fait revenir, là.
Bah, remarquez, Gamache, à mon avis, c'est pareil. Hein. Si Mme Penny gagne bien sa vie avec l'inspecteur Gamache, ce serait quand même dommage qu'il prenne sa retraite.
Il y a pas mal de stress, là, monsieur. Une grosse dose de stress.
La presse avait écrit sous la plume, je ne sais plus si c'était Marie-Christine Blais, mais en tout cas, l'art de la métaphore, en parlant de ce livre de Mme Penny, l'art de la métaphore transposée dans l'univers du polar. La mythologie québécoise comme source d'inspiration, ah bon?
Ce qui est amusant dans les livres de Louise, quand on va voir, moi j'ai été voir le site personnel de Louise Penny, et bon, tous les romans de Louise Penny, même s'ils sont écrits en anglais, ils se passent toujours au Québec. Son inspecteur s'appelle Gamache, les personnages ont des noms en général francophones, et il travaille pour la Sûreté du Québec, et donc dans son site internet, pour les lecteurs anglophones, elle prononce... tous les noms des lieux et les noms des personnes pour que les gens comprennent comment ça se dit en français.
OK. Ben, moi, ce que je trouve fantastique, c'est qu'il y a des organismes comme les Canadiens de Montréal qui feraient bien en prendre de la graine, par exemple.
Ah oui, il y a peut-être des organismes. Mais Louise Penny, elle a travaillé longtemps à Radio-Canada, dont à Radio-Canada, Québec. Je crois qu'elle a déjà été animatrice du matin à la radio anglaise de Radio-Canada à Québec. C'était
oui.
son premier métier.
C'est fort probable. Et là, tout d'un coup, vous m'éclairez. Et là, tout d'un coup, là, j'ai la petite lumière qui fait ding, 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 ding. Mais oui. Effectivement, c'était du côté anglais. Est-ce que vous savez si elle-même, elle vit en Estrie, Mme Penny?
Oui, elle vit en Estrie. Je crois que son conjoint est un médecin et qu'elle vit en Estrie. D'ailleurs, en relisant les choses sur Louise Penny, aujourd'hui, j'ai vu qu'il existe parce que les endroits qui l'ont inspiré. C'est à partir d'endroits qui existent vraiment, comme l'Auberge Aux et les Saint-Benoît-du-Lac.
Oui.
Donc, apparemment, il y a un circuit touristique où les gens vont à la rencontre des vrais lieux des cantons de l'Est qui ont inspiré Louise Penny.
Ah oui, à ce point-là.
Que les gens, oui, apparemment que les gens, un peu comme il y a des gens probablement qui vont
un espèce de pèlerinage, quoi.
Pour retrouver les traces de, comment ça s'appelait, Lisbeth, là, dans la... J'ai un bon mémoire, le roman que tout le monde a lu à un moment donné. Là.
Excusez-moi, j'ai pas...
Lisbeth Salander. Là, dont
Oui.
Millennium, c'est ça. Bon, les gens vont sur les traces de Millennium.
Vous savez qu'André Gagnon a fait ça, hein? André Gagnon est un fou de romans policiers. Et c'était lui, entre autres, un jour qui m'avait mis sur la piste de M. Mankell et qui m'avait dit « Comment vous ne connaissez pas M. Mankell ?» Et André Gagnon, qui est un fou de polar et un fou de voyage, eh bien, un matin, ça lui a pris comme ça et il a dit « Je vais là-bas, je veux voir la Suède, je veux voir à quoi ça ressemble, je veux voir... » Alors, voyez-vous, effectivement, il y a des gens. Mais au moins, là, c'est quand même moins loin. Et puis, j'adore les cantons.
Un petit peu plus accessible, là, un peu plus économique.
Ouais. Mais il y a beaucoup d'auteurs hein, qui écrivent sur l'Estrie ou qui vivent... Je pense à Michel Plomer, là, qui vient de sortir aussi un autre roman et qui est installé à Eastman. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui
Clémence
sont...
Clémence Desrochers, il y a plusieurs...
Clémence, mais oui, notre Clémence aussi, que j'attends à ce micro depuis maintenant 2 ans, mais je vais finir par l'avoir, la Clémence.
À l'usure.
Vous me connaissez, Louise. Je ne suis pas du genre à lâcher. Alors, écoutez, Louise Boulanger, ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de ce livre de Louise Boulanger, de Louise Penny, pardon, La faille en toute chose.
Je m'en avais pas ce talent-là, même si on met le même prénom, puis qu'on est né à peu près à la même époque.
C'est vrai?
Oui, elle est née en 58, et moi, quelques années avant. C'est quelqu'un de ma génération, Louise Penny. J'ai malheureusement pas ses talents d'auteur.
D'accord. Une toute petite question, très rapidement, avant qu'on se quitte. Ça vous a donné l'envie d'en lire d'autres?
Oui, sûrement. J'en ai téléchargé quelques autres. Là,
d'accord.
Et je vais en lire d'autres. Ça peut être des romans intéressants pour les gens qui n'osent pas aborder le roman policier parce qu'ils disent des fois, oh, c'est pas mal weird, là.
Mais oui.
Mais elle, là, on verra pas le sang puis les morceaux, là.
Non, c'est là. Ça. Non, c'est pas.
C'est un peu plus ça.
C'est pas du Patrick Sonnecal, ni même du Monsieur Michaud, là. C'est plus soft, hein, c'est ça. Merci.
C'est ça.
Merci beaucoup,
bonjour.
Louise Boulanger. Passez une très belle journée et on se retrouvera avec plaisir dans le courant de la saison, j'espère.
Bonjour.
Salut. Recevoir Anne-Marie Sicotte, c'est recevoir une journaliste, parce qu'on va en parler. Ça a commencé comme ça, une femme de lettres, une femme d'histoire, une femme de langage, amoureuse de la langue française. Une femme amoureuse de la langue française et puis aussi de cette parlure hein, que pratiquaient nos ancêtres des deux côtés de l'Atlantique, d'ailleurs. Une femme qui ne lésine sur aucun détail, une femme qui nous apprend, qui nous accroche, une femme qui témoigne, qui nous fait voyager dans le temps et qui nous offre des sagas dont on a bien du mal à se sortir. Bonjour Anne-Marie Sicotte.
Bonjour et merci pour cette belle, très belle introduction.
Mais je vous en prie, écoutez, c'est la moindre des choses. C'est la première fois qu'on se rencontre. C'est la première fois que vous venez à l'émission Anne-Marie Sicotte. Et comme vous n'avez pas qu'un seul livre loin de là qui sont enregistrés, je me suis dit, parlons de l'œuvre en général d'Anne-Marie Sicotte. Et c'est vrai ce que je disais, que vous avez commencé par le journalisme toute jeune.
Oui.
Et l'histoire.
Et j'ai commencé par un bac en histoire, oui.
C'est
Mais
ça.
Après, je suis allée en journalisme, en vulgarisation historique surtout. Mais ça a duré seulement quelques années.
Ouais.
Puis après ça, je suis allée plus vers l'écriture de longs textes, biographies et romans.
Mais l'histoire encore, parce
toujours.
Que l'histoire est toujours au cœur, de toute façon, de vos romans, de vos essais.
Et les biographies, moi j'ai commencé ma carrière d'écrivaine par une biographie, celle de Gracien Gélina. Donc c'est le côté humain de l'histoire que j'aime beaucoup aller chercher, de toutes les manières, soit dans un individu ou une société.
Gracien Gélina, dont vous êtes la petite-fille quand
oui,
même.
Par ma mère, oui.
OK, d'accord. Alors, je précise aux gens qui nous écoutent encore une fois que tous les livres dont nous parlons pendant cette entrevue sont disponibles. Alors, celui de Gracien Gélina l'est également. Je vous ai entendu dire dans une entrevue où j'ai lu quelque part que vous dites que vous êtes issu d'une famille où l'expérimentation n'était pas rare. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'était une famille ouverte qui s'essayait à plein de choses?
Ben, la famille Gélina, c'est sûr. Les artistes... Je ne sais pas dans quel contexte j'ai dit ça, mais c'est une famille très ouverte au niveau des arts. En tout cas, et moi, peut-être ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est que l'écriture, la pratique de l'écriture a jamais été quelque chose de tabou. Pas de tabou chez nous, mais de pas concevable. Mon grand-père, Gracien, avait... pour lui, l'écriture, c'était la partie la plus noble de son métier, la plus riche au niveau, dans le sens héritage. Il laissait quelque chose de tangible, ses pièces. Et donc, ma mère écrivait, j'écrivais dans ma chambre quand j'étais adolescente.
C'est vrai.
Et jamais ça a été considéré comme quelque chose à ne pas... Parce que dans quand même certaines familles, considérer le métier d'artiste ou d'écrivain, c'est oui. un peu une déchéance ou enfin, quelque chose qui n'est pas nécessairement... Oui. qui ne paye pas à long terme et qui n'est pas très, très bien vu, alors que chez nous, c'était vraiment très, très normal.
Mais votre grand-père, si célèbre, d'ailleurs, donc je le rappelle, à qui vous avez rendu hommage, il est parti en 99,
oui.
c'est ça? Donc, il n'a pas eu le temps de vous lire.
Non, il n'a pas pu. Il aurait peut-être... plus si dans le délai, mais c'est qu'au moment où ça s'est publié, il était déjà atteint de démence, puisqu'il dans ses dernières années de vie, donc il n'a pas pu me lire et ça me soulageait un peu parce que j'ai été assez honnête quand même dans la biographie. J'ai allé parler de ses maîtresses, ses infidélités, de ses... Il y a une certaine époque, il a engagé des nègres qu'on appelait là, des écrivains sans donner la paternité du travail qu'ils avaient donné.
Ah oui, en effet.
Donc il y avait plusieurs péchés d'orgueil comme ça, mon grand-père. Alors j'ai dit tout ça. Et j'aurais été un peu mal à l'aise, comme j'étais assez jeune encore, aujourd'hui non, mais de savoir qu'il l'aurait lu et qu'il aurait pu être vexé ou attristé par ça.
Ce qu'il aurait peut-être pu lire, c'est ce que vous avez signé, si je ne m'abuse, vous avez quoi, 24 ans? De la vapeur au vélo, le guide, ouais. le guide du canal
ça,
de la Chine.
Ça, il a dû lire, oui.
Ça, alors ça, ne sautez pas là-dessus, au SQLA, malheureusement, nous ne l'avons pas. Mais ça, je me suis dit, bon, ben voilà quelqu'un. J'y pense parce qu'avec ça, je suis allée me promener jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue il n'y a pas encore si longtemps. Alors donc, j'ai arpenté tous les bords du canal de la Chine, là-bas jusqu'au bout. Et donc, déjà l'historienne en vous et l'écrivaine, mais comme vous nous le disiez, de toute façon, en tant qu'adolescente, vous écriviez déjà dans la chambre. Qu'est-ce que vous écriviez? Un journal.
Un journal. Pas tant que ça. J'écrivais déjà des fictions. Certaines que j'ai jetées au feu. Là. Évidemment, on le regrette quand on est vieux. Hein. C'est comme des fictions. Je me confiais. J'étais une adolescente assez solitaire, assez qui parlait peu. Donc, j'avais besoin de parler à une page blanche.
À une page blanche.
C'est comme ça que j'ai développé mon aisance d'écrire.
Alors, le premier roman en tant que tel...
Mon premier roman, c'est Les Amours fragiles.
Les Amours fragiles, alors que nous avons ici, bien sûr.
Oui, tant mieux. Donc, c'est vraiment un roman plus autobiographique, celui-là. Je ne fais pas mentir la légende, qui n'est pas une légende, qui veut que notre premier roman est souvent autobiographique.
Oui.
Parce que je parle justement un peu de ma relation un peu complexe avec mes parents, le divorce. Moi, j'étais une enfant du divorce dans les années 60, tout début des années 1970, ce qui était très rare encore. Mmh. Et j'habitais en plus la campagne, c'était encore plus rare. Donc, j'ai mal vécu cette période-là correspond à mon secondaire, le cégep et tout ça. Donc, je raconte un peu tout ça. Je raconte aussi toutes sortes de choses qu'une jeune fille pouvait vivre à cette époque-là et puis tous ces questionnements.
Ensuite, il y a eu...
Ensuite, ça a été... en fait, le premier roman dont je vous ai parlé a été publié après. Mon premier livre, c'est vraiment Le Gracien, La Faveur et le
Doute.
C'est
ça, oui.
Ensuite, comme j'ai eu trois enfants, j'écrivais pas beaucoup. Donc, je faisais plus des petits récits et des livres d'images anciennes que j'aime beaucoup faire aussi parce que je trouve que l'image, bon, ça, évidemment, dans le cadre de cette clientèle-là, c'est moins intéressant, mais c'est quand même, pour beaucoup d'entre nous, une méthode super intéressante pour plonger dans l'histoire. Et ensuite, j'ai fait Marie-Gérin Lajoie, la conquérante de la liberté, donc un livre sur la féministe Marie-Gérin Lajoie. Et après, ça a été Les Accoucheuses, donc la saga Les Accoucheuses qui a été... mon grand succès
populaire, que j'ai lu, et je dois dire les aventures de, comment s'appelait,
Léonie
et Flavie, voyez-vous, et puis je garde un excellent souvenir de cela. J'ai pas amené tous les livres que j'ai, parce qu'en plus...
Oui, c'est des briques.
Ou
des bibles, comme on veut.
Mais en tout cas, quand on lit ça sur papier, c'est le genre de choses, le soir avant de s'endormir ou le matin en se levant, on peut même faire un petit peu d'exercice.
En fait, c'est vrai,
vous n'êtes pas avare de détails, vous aimez ça.
Non, puis en plus, moi, quand j'ai commencé Les Accoucheuses, je pensais faire un seul tome. C'est que l'histoire, mes personnages, l'histoire de Montréal, l'histoire du Québec, tout ça m'entraîne dans un chemin que je ne pensais pas prendre. Mais j'ai fini par me dire, écoute, j'y arriverai pas à raconter cette vie. C'est ce que je veux raconter de ces femmes-là et de la vie montréalaise au 19e siècle et le féminisme, la place des femmes.
C'est ça, parce que l'histoire... vous intéresse, vous passionne, mais je dirais que la nature humaine vous fascine.
Ben c'est les deux, oui, tout à fait. En fait, ce que je trouve dans l'histoire de fascinant et de si intéressant, c'est qu'on a des vies complètes. On peut suivre une vie complète de A à Z et donc en tirer des enseignements, des leçons, je trouve que c'est un panorama magnifique. Mmh. Et donc, j'essaie d'inscrire ces vies-là dans une vie plus large, qui est une vie sociale, la vie d'une société. Je privilégie le Québec parce que c'est mon... c'est celle que je connais, puis c'est celle que j'ai le goût d'approfondir. Mmh. Et c'est ça que je trouve intéressant de l'histoire. C'est pour ça aussi que je fais de la biographie. C'est d'aller chercher l'essence humaine, la véracité humaine, disons, ces personnages, et ensuite la manière dont la société est organisée par ces personnages.
Alors, donc, il y a eu les accoucheuses, et puis il y a eu, alors là, j'en ai un exemplaire ici, il y a eu, en fait, c'est une double série, mais c'est l'histoire des patriotes.
Ouais, c'est un cycle patriote.
C'est donc, un cycle patriote.
Oui, qui est en quatre tombes, divisé en deux.
C'est ça.
La première partie, c'est Le Pays insoumis, qui a deux tombes, et la deuxième partie que vous avez, c'est Les Tucs bleus, en deux tombes aussi, qui peuvent se lire indépendamment. Mais c'est quand même les mêmes personnages qui suivent un peu la même histoire.
Alors là, ce que j'ai sous la main, c'est le tome 1.
La deuxième partie, Les Tucs bleus.
Exactement. Voilà. J'ai le tome 2 à la maison, Le charivari de la liberté. Ça, le charivari, c'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire québécoise.
C'est un phénomène social très présent. Le charivari, ça fait des millénaires que ça existe en Europe, ici, partout. Et j'ai utilisé ce mot-là parce qu'il y a eu beaucoup de charivari. On connaît un peu, c'est quoi les charivari, hein, les manifestations populaires costumées avec des slogans, des chansons, des bruits discordants, un peu comme le printemps érable, il y en a eu. Et c'était très, très en vogue et ça a été utilisé à des fins politiques en 1837, 1836 et un peu avant. Et donc, je me suis servie de ce mot-là pour illustrer, en fait, le branle-bas qu'il y a eu avant les rébellions et ensuite, c'est plus un charivari, c'est une terreur. D'ailleurs, le deuxième tome, c'est le règne de la canaille. La canaille officielle. Vous parliez de corruption tout à l'heure, il y a quelques minutes, mais c'est tout à fait ça. C'est une histoire de corruption du gouvernement et puis des méthodes utilisées pour faire taire un élan démocratique d'un peuple.
Quelle recherche!
Oui.
Quelle recherche! Mais c'était vrai aussi pour les accoucheuses. Mais vraiment... parce que je ne peux pas croire, je suis convaincue qu'il y a autant d'heures, de jours, de mois de passer à la recherche qu'à l'écriture.
Oui, je dirais même un peu plus, en fait.
Un peu plus. Est-ce que vous vous faites aider? Est-ce que vous vous faites aider?
Non, je fais ça toute seule. Parce que l'adage que la réalité dépasse la fiction, c'est tout à fait vrai en histoire. Et dans mon cas, je me priverais d'une somme importante d'un côté spectaculaire, un côté très humain, très véridique à cette époque-là. Tout ça, je m'en priverais beaucoup si j'allais pas fouiller l'histoire.
Mais oui.
Et je la fouille comme peu de gens l'ont fait, peu d'historiens l'ont fait. Même moi, si je suis allée si loin dans la documentation, c'est parce que je trouvais que les historiens m'en donnaient pas assez.
Il y avait une espèce d'omerta à l'époque. On n'appelait pas ça comme ça, mais tout n'était pas dit.
La censure, il y en a eu énormément. Ensuite, il y a eu toute les générations de prêtres qui écrivaient. Donc, il y avait toute une autre couche de censure, beaucoup de préjugés aussi. Des préjugés antidémocratiques aussi, antipopulaires, en fait. Il y avait beaucoup d'élitisme à cette époque-là.
Oui.
Donc, c'était assez, assez... Moi, quand je lisais les historiens, je me disais, mais ça se peut pas, il y a quelque chose...
Il manque un maillon de la chaîne, là, c'est ça.
Il manque le jus, il manque la chair. Alors, je suis allée, puis je l'ai remise au jour. Et puis là, le portrait qui s'en dégage à la fin, c'est pas du tout ce qu'on nous a raconté, là. C'est vraiment... une lutte contre la corruption, puis une terreur militaire. Les rébellions, c'est une terreur militaire, une répression qui s'installe depuis la tête du gouvernement. Et c'est pas seulement ethnique non plus, c'est pas seulement anglais contre français, c'est aussi... c'est plus riche et puissant contre le peuple, contre les démocrates et tout ça. Alors, il y a toute une autre dimension à la lutte.
Ça vous aurait pas tenté d'être professeur d'histoire?
J'espère que je le suis en partie avec mes livres.
Oui, peut-être
que j'ai
même
le meilleur,
plus.
C'est ça. Oui. Puis en plus, je fais des conférences aussi. Alors
c'est ça. Oui. On va en reparler d'ailleurs de vos conférences. Il y a une chose sur laquelle je voudrais m'attarder parce que pour moi, qui suis une Normande du Pays Caux, qui retrouve tellement dans la parlure québécoise des expressions qu'on utilise dans ma famille.
Le patois de ces
régions-là. De ces régions-là. Et encore maintenant, il y a certains patois cauchois, comme on dit chez nous en Normandie. Si vous mettez un Parisien là-dedans, il ne comprendra pas un mot de ce qui se dit. Alors que moi, je vais comprendre.
Oui.
Parce que je suis née là-dedans et j'ai grandi là-dedans. Et alors, il y a des expressions que j'ai relevées. Je voudrais vous en citer quelques-unes. Vous l'aimez, hein, cette vieille parlure aussi. Ça aussi, c'est beaucoup de recherche. Oui. Un fier à bras notoire, bon, appuyé par quelques compères tapagères, a fait frime de relever le défi.
Ouais,
le défi, pardon. Alors ça, c'est vraiment...
Faire frime, oui.
Hein, faire frime. Ça, j'avais jamais entendu celle-ci. Une berlancille, j'imagine que c'est une balançoire.
Ouais. Hein, ouais.
Mais une berlancille, je n'avais jamais entendu l'expression. Et par contre, il y en a une ici, alors nous, qui se dit encore, pardon, beaucoup chez nous, c'est « ça fait une escousse ».
Oui, oui. Et moi, j'ose utiliser ces expressions-là dans la langue écrite, ce que peu d'auteurs font encore.
C'est vrai.
Parce que je trouve que c'est une richesse, c'est pas... La langue française telle que dictée par, disons, la culture française, on nous a beaucoup appauvris. Et on nous a beaucoup dépossédés de beaucoup de choses. Donc, le mot tannant, c'est je suis tanné, c'est tannant.
Ben oui.
C'est tout à fait un mot légitime et acceptable. Mais maintenant, oui, mais à l'époque, on le trouvait pas dans le dictionnaire. Et plein d'expressions comme ça qui sont aussi valables, mais que juste qu'il y a eu une espèce de diktat français, l'Académie française et tout ça, qui nous a beaucoup. C'était un peu humiliant, tout ça. Fait qu'il y a toute une question de honte et de... Tu sais, je parle mal, j'ai pas de vocabulaire, tout ça.
Oui.
Tout ce que les Québécois, on s'est fait dire un peu longtemps, là. Alors moi, c'est aussi une entreprise de remise en valeur de ce langage-là.
Oui, puis, et c'est ce qui fait le charme aussi de vos livres, Anne-Marie Sicotte. Puis vous savez, là, vous parliez justement des petits tannants, mais j'entends encore mon oncle parler d'un petit gamin, par exemple, un petit peu survolté, puis il dirait le mot ditanant.
Ah, il dit.
Absolument.
En Normandie.
En Normandie.
Oui, oui. Toutes les hêtes. Alors, monette et fait-frette.
Oui,
ça, c'est un patois du Poitou.
Exactement, exactement.
Alors, moi, je les mets souvent pour comprendre, qu'on comprend le lit. Ouais, c'est pas un lit.
Oui, oui. Je me rappelle, quand on était petite, on allait crier de l'eau.
Vous alliez?
Crier de l'eau. On allait chercher de l'eau.
Ah.
Et c'est comme l'escousse, on disait de l'eau de l'eau.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, voyez-vous, c'est assez fascinant. Vous travaillez sur quoi en ce moment, Anne-Marie Sicotte?
Je travaille sur un prolongement, disons, de mon travail sur les Patriotes, c'est une biographie, celle de Louis-Joseph Papineau.
Bon.
Je trouve que cet homme-là a été malmené par la science historique, il n'y a pas la biographie qu'il faut, il n'y a pas de biographie à sa juste valeur. Lui et son entourage et sa famille... Et je vais en profiter pour aussi ramener tout ce que j'ai découvert en faisant ma recherche, le réactualiser d'une manière un peu plus formelle, disons, dans un essai là, que je vais essayer de rendre le plus vivant possible, mais un essai quand même. Donc, toute la vérité sur les rébellions et l'avant-rébellion, l'après-rébellion, tout ce que je crois important de passer à travers la vie de cet homme-là qui a fait un siècle, presque 1786 à 1871. Donc, il y a vraiment matière à réexplorer notre histoire.
Et vous donnez des conférences sur quel thème? Sur l'histoire?
Ce qu'on me demande, ça peut être les accoucheuses, ça peut être les patriotes, ça peut être Marie-Gérin Lajoie, ça peut être tout ça, et ça dépend des besoins de... Si je réponds aux besoins, là, c'est l'Université du Troisième Âge, c'est les sociétés d'histoire, des trucs comme ça. Donc, c'est pas un programme formel de conférences, mais j'en fais quand même 12-15 par année. Sinon,
oui, quand même?
Ouais.
Et est-ce que vous en avez une, peut-être, à nous plugger? Non? Non, ben regardez.
Non, écoutez,
mais est-ce qu'on peut aller sur votre site?
Okay. Non plus, je ne mets pas mes conférences. C'est souvent des conférences comme à des clientèles un peu pas privées, mais l'Université du Troisième Âge, c'est sous inscription et tout
D'accord.
ça. Mais il faut juste aller sur mon site, www.amsicotte.com, au moins pour voir, en gros, ce que je fais. Puis,
OK. Voilà. Anne-Marie Sicotte, on vous remercie beaucoup et bravo pour tous ces livres. Je rappellerai à la fin de l'émission tous les titres qui sont disponibles de vous et je lirai un extrait en seconde partie de Le Charivari de la Liberté, extrait des Tugues Bleues. Au revoir Anne-Marie Sicotte.
Merci de m'avoir reçue.
Des livres pleins les oreilles, seconde partie.
Lorsque l'orgue de Barbarie, sous les ongles de Barbara, nous entraîne tout contre lui, il se meurt de nous sentir là. Des arpèges d'écume blanche s'éternisent en longs rouleaux et les vagues roulent des mots lorsque le doux roulis s'avance des cadences de Barbara. Sont-ce des yeux, sont-ce des ailes, sont-ce des mains ou des oiseaux, signocole noir mais sans dentelle, signocole noir mais sans manteau, sont-ce des fleurs en ribambelle qui tournent autour de ces mots, lorsqu'elle va, qu'elle chancelle, celle qui est au piano. Lorsque l'orgue de Barbarie, sous les ongles de Barbara, nous parle d'amour et d'oubli, de fraises rouges et de lilas, des arpèges en avalanche, agonisent en longs sanglots et le cœur devient un tombeau lorsque s'alourdissent les danses, les cadences de Barbara. Sont-ce des yeux, sont-ce des ailes, sont-ce des mains ou des oiseaux, signocole noir mais sans dentelle, signocole noir mais sans manteau. Sont-ce des fleurs en ribambelle qui tournent autour de ses mots lorsqu'elle va, qu'elle chancelle, celle qui est au piano. Lorsque l'orgue de Barbarie couvre les mots de Barbara, qui chante d'une voix meurtrie le sursis dont elle ne veut pas. Les manèges du cœur se penchent et nous l'écoutons sans un mot, et nous mettons bas nos chapeaux lorsque meurt avec élégance les cadences de Barbara. Sont-ce des yeux, sont-ce des ailes, sont-ce des mains ou des oiseaux, signocole noir mais sans dentelle, signocole noir mais sans manteau. Sont-ce des fleurs en ribambelle qui tournent autour de ses mots, lorsqu'elle va, qu'elle chancelle, celle qui est au piano. Lorsque l'orgue de Barbarie couvre les mots de Barbara, lorsque l'orgue de Barbarie meurt sous les doigts de Barbara, y a un arbre, pigeon vole et s'envole. Il y a un arbre.
Et oui, j'avais décidé, une fois n'est pas coutume, de commencer cette seconde partie par une chanson, ça s'appelle L'Orgue de Barbara. C'est une des chansons, je pense, les plus méconnues, écrite par Serge Lama. Lama qui a bien connu Barbara dans les boîtes à chansons à l'époque, parce que c'est là qu'il avait fait connaissance avec Barbara, avec qui il était devenu très très ami. Ils chantaient notamment ensemble à l'écume des jours à Paris, sur les quais de Paris. Pourquoi avoir choisi cela? Eh bien parce que avec l'ami Gérard Saint-Denis, nous inaugurons une nouvelle série, et à toutes les deux semaines, l'ami Gérard viendra aborder avec nous la vie d'un artiste via un livre ou plusieurs livres qui auront été écrits sur lui. Et on commence aujourd'hui avec Barbara. Bonjour Gérard.
Bonjour chère dame. Bonjour à vos auditeurs.
Alors,
très heureux de revenir.
Oui, mais oui.
Un auteur, un livre,
oui.
Une chanson et des émotions.
Mm-hmm. Oui. Hein.
Quand on parle de Barbara, vous me forcez à avoir des souvenirs que j'adore. J'ai aimé cette femme, j'ai aimé cette poète, j'ai aimé ce personnage particulier. Je ne sais pas pourquoi. Elle avait dans sa voix, il y avait quelque chose de prenant, il y avait quelque chose de sublime. C'était pour moi une personne que j'ai écoutée maintes et maintes fois dans ses chansons. Mais je la trouvais triste.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, le titre du livre que je vais vous proposer à lire, c'est Il était d'un piano noir.
Oui.
Il n'était pas blanc, il était noir. Et rappelez-vous, quand elle interprétait « Dis, quand
reviendras-tu?
Ne me quitte pas, les flamands, l'aigle noir. » Et elle a chanté « Barrel Brassin », c'est tellement bien pour ça. C'est une femme merveilleuse. Donc, ce beau livre qui est disponible à l'INCA,
OSQLA, oui.
Oui, c'est une autobiographie qui n'a pas été achevée. Elle est morte avant, mais quelqu'un l'a terminée pour elle.
D'accord.
C'est posthume. Et on va fêter les 20 ans de sa mort le 24 novembre.
C'est ça. Dans quelques jours maintenant,
dans
effectivement.
Jours. Oui,
effectivement.
Ça. Et déjà 20 ans. Il me semble que c'est hier.
C'est fou, hein?
Je ne sais pas pourquoi. C'est une voix, c'est un piano, c'est une silhouette, c'est une légende, c'est une histoire d'amour. Elle faisait partie du milieu de la chanson, mais d'une façon un petit peu particulière. On la vénérait un peu.
Oui.
C'est drôle, hein?
On la vénérait. Elle faisait partie, vous savez, de ces grands énormes de la chanson,
oui.
qui étaient Brel, Brassens, Ferré, et on citait tout de suite après Barbara. Alléluia, au moins, il y avait une femme là-dedans. Non, mais c'est vrai. Et elle était... C'était complètement démesuré, quoi, quand on disait la grande dame en noir. Enfin,
j'ai vu beaucoup, beaucoup d'interprètes, mais je ne l'ai jamais vue, elle. Je ne l'ai jamais vue en spectacle.
En spectacle.
J'ai vu des spectacles à la télévision, là, comme de raison. J'avais tous ces CD. En premier, c'est long jeu, mais après ça, c'est CD. Mais je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, en personne.
Non, malheureusement. Je l'ai déjà vu en personne. Hein? Je l'ai déjà croisé en personne, mais malheureusement, j'ai quand même vu plusieurs spectacles grâce à des cassettes, à des DVD, mais je n'étais pas dans la salle, malheureusement.
C'est ça.
Gérard,
oui.
Le temps tourne et je voudrais qu'on écoute un petit peu du Barbara, mais avant, je sais qu'il y a quelque chose que vous vouliez...
Mais je vais vous dire que je voulais faire amende honorable. J'ai été mélangé dans ma vie.
Ah!
Savez-vous pourquoi? Bon. Quand je pense à Barbara, je m'en vais avec Jacques Prévert.
Ah!
Je ne sais pas pourquoi.
Souviens-toi, Barbara.
C'est ça. Souviens-toi, Barbara.
Il pleuvait sur Brest ce jour-là.
Oui. Et je me rappelle de Prévert qui était c'était mon livre de chevet. Et je dois vous avouer que ce livre-là,
oui.
Je l'ai tellement feuilleté.
Ah oui.
Il était rendu. Comment est-ce qu'on dit ça, qu'il tournait tellement les pages, c'était tellement usé, j'ai été obligé de m'en acheter un autre. C'est le seul livre, j'ai été obligé de faire ça. Je me souviens, les deux escargots qui s'en vont à l'enterrement de feuille morte. C'est fantastique.
Malheureusement, on va être obligé de se laisser, mon ami, mais je suis contente que vous nous ayez remémoré ce prénom aussi, Barbara, tel qu'utilisé par Prévert dans son recueil Paroles.
Oui.
Alors, Serge Lama, tantôt, dont vous avez peut-être entendu au moins un petit bout, finissait sa chanson avec un petit bout de la petite cantate. Eh bien, je vous propose qu'on l'écoute en entier.
Ah ben, merveilleux.
Bonne fin de journée, Gérard.
Salut bien et salutations à tous nos auditeurs.
Ben, au revoir.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similaire et sans le dauphin. Cette petite cantate, force le dauphin, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes courent faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, similaire et sans le dauphin. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile face à le dauphin. Je te revois souriante, assise à ce piano-là. Disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Similaire et si sans le dauphin. Similaire et si sans le dauphin. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière, da 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 da. Avec mon cœur pour la faire, et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Similaire et si sans le dauphin. Similaire et si sans le dauphin. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Similaire et si Santo
Barbara, oui, tellement si déchirée hein, sur scène, si triste, comme le faisait remarquer très justement Gérard Saint-Denis. Mais si Gérard nous écoute, il paraît que dans la vie, elle n'était pas si triste que ça. Elle était même carrément coquine et elle avait beaucoup d'humour, Barbara. Voilà. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à l'extrait du jour. Si vous étiez à l'écoute de la première partie, vous savez que je recevais Anne-Marie Sicotte. Et j'ai donc choisi d'Anne-Marie Sicotte un extrait des Tuques bleues du tome 1 des Tuques bleues, le charivari de la liberté. C'est un passage important. Il s'agit de d'une bataille qui est attendue et qui finit par arriver à Saint-Denis sur Richelieu. Alors on retrouve les personnages de Vitaline et Normande. À peine Vitaline et Normande se sont-elles tirées de leur lit en ce 12 novembre où la clarté du jour se fait longuement désirer, qu'une voisine vient cogner à leur porte. Ayant vu de la lumière s'allumer, Dame Clariste, l'épouse du meunier, a couru leur faire part d'une annonce à glacer le sang. Ce n'est plus seulement la police montée qui est sur le point de venir se saisir de Dr. Wilfred Nelson pour l'amener à Montréal et le jeter dans la prison commune, comme tout le monde le sait depuis hier, mais la soldatesque. Vitaline s'évertue à sonder Dame Clariste, mais c'est tout ce qu'elle peut en tirer. Leur voisine est excessivement nerveuse et Vitaline lui commande de s'asseoir en compagnie de Normande et de sa mère, tandis qu'elle ira au bourg en quête de nouvelles. Impossible de compter sur Florentin ou son père qui sont repartis sur leur barque à voile, ni sur Norbert qui n'est même pas rentré dormir cette nuit. La jeune femme se bougrine en toute hâte et s'élance sur les chemins où la boue s'est transmuée en glace pendant la nuit. Tout en marchant, elle fait le point. Avant-hier, une troupe surnommée Police Auxiliaire de Montréal a débarqué à Saint-Jean. L'arrivée de l'escouade de volunteers et de quelques habits rouges salariés grillés d'un canon a créé un émoi considérable. Les cavaliers avaient ordre, comme il a été vitement su, de tenir leurs chevaux scellés nuit et jour. Quant aux artilleurs, ils devaient veiller à tenir le canon constamment paré, à tirer. Sans nul doute, on s'en venait mettre les hommes d'importance dans les fers. Comme à Montréal, où la huitaine de tuques bleues poursuivies n'ont dû leur libération qu'à l'intervention de magistrats férus de justice. En prévision d'une agression de la part des membres du corps expéditionnaire, les miliciens de Saint-Athanas, de l'autre côté de la rivière Chambly, se sont assemblés à l'extrémité du pont. Lorsqu'un détachement est allé patrouiller le village patriote, les miliciens leur ont collé aux semelles, ou plutôt aux fers à chevaux, afin de guetter le moindre écart de conduite. Comment ne pas craindre un comportement agressif après la raclée qui a été servie au fils de la liberté, sous la supervision active des autorités constituées? Mais la petite troupe à cheval n'a pas causé d'incident, et s'en est retournée benoîtement à Saint-Jean. Peu après, le capitaine du Royal Artillery a fait placer le canon et une garde armée sur le pont, là où se trouve le poste de douane. Une nuit paisible s'est ensuivie et aux dernières nouvelles, la tranquillité n'était pas troublée, malgré les patrouilles régulières qui quittent régulièrement les baraquements pour des missions de reconnaissance en territoire prétendument ennemi. Avec l'espoir, certes, de susciter une échauffourée qui serait impitoyablement réprimée. L'onde de choc s'est propagée dans toute la contrée. Des habitants ont afflué à Saint-Denis pour protéger ceux qui risquaient les persécutions parce qu'ils avaient élevé la voix en leur nom. Pour protéger en particulier le docteur Wilfred Nelson, celui qui a été si souvent désigné dans les papiers nouvelles à la solde des autorités comme le principal fauteur de troubles de la paroisse et que Derbatch déteste de toute son âme. Après avoir été dépassé par nombre de cavaliers affluents au village, Vitaline y pénètre enfin. Les chemins publics sont encombrés d'enfants qui zigzaguent, de femmes qui bavardent à voix haute et d'hommes qui s'empressent de part et d'autre. Vitaline sent la peur la gagner, mais se dominant, elle poursuit sa route. Passant devant la maison du bon docteur, elle voit sur la galerie une paire d'hommes en faction, armés de fusils. Chronique des nouvelles et des livres maintenant, alors que je vous rappelle, si vous l'aviez raté, que l'extrait que je viens de vous lire, c'est un extrait de Le Charivari de la Liberté d'Anne-Marie Sicotte, le tome 1 donc de la série Les Tuques Bleues. Alors, des nouvelles et des livres, je suis tombée là-dessus en faisant des recherches comme je le fais souvent pour vous. Il y a dans, je pense que c'était dans Le Monde du Livre, On s'est demandé à un journaliste qui s'appelle Dominique Lemieux, en fait c'est paru dans les libraires en début novembre là, 2016, il s'est posé la question, Dominique Lemieux, quels sont les livres qui ont construit Barack Obama? Je vous avouerai qu'il y en a plusieurs que nous n'avons pas, mais il y en a quelques-uns que nous avons. Alors, il y a Sapiens, une brève histoire de l'humanité, c'est un livre de Yuval Noah Harari, H-A-R-A-R-I, disponible au SQLA, je vous redonne le titre, Une brève histoire de l'humanité. Où là, M. Harari nous expose un travail ambitieux. Il y aborde une multitude de sujets, l'agriculture, l'économie, la religion, la révolution scientifique, la révolution industrielle. Et la force de ce livre, nous dit-on, est sa vision d'ensemble. L'auteur remet les choses en perspective et offre au lecteur une autre vision du monde. Une vision plus complète, voire plus complexe. Car le livre nous fait prendre conscience qu'une idée n'arrive pas seule, mais qu'elle est le fruit d'événements multiples. Alors voilà un des livres qui a nourri, qui a construit M. Barack Obama, qui, au moment où l'émission est diffusée, n'est plus en poste, n'est plus président. Et je précise qu'au moment où l'émission est diffusée, on ne sait toujours pas qui occupera le siège de la présidence aux États-Unis. Il y a également un livre de John Steinbeck qui s'appelle « En un combat douteux ». Ce roman qui suit deux activistes parmi les ouvriers d'une communauté de cueilleurs de pommes en Californie et qui nous fait plonger dans la violence d'un mouvement de grève. Eh bien, ce livre-là aussi a nourri beaucoup l'intellect de M. Barack Obama. Et puis, une œuvre complète, mais que malheureusement nous n'avons pas, mais je pense que de toute façon personne ne l'a, ou presque, puisque c'est de toute façon une œuvre qui n'a pas été traduite, mais c'est l'œuvre complète d'un autre grand orateur, celui qui était Abraham Lincoln, et qui a été une source d'inspiration certaine pour Barack Obama, qui suggère donc les 9 volumes de l'œuvre complète du 16e président américain. Ce n'est pas encore une fois disponible en français, mais c'est disponible en anglais. Si à un moment donné, vous pouviez peut-être tomber là-dessus, il semblerait, si vous suivez la vie de M. Obama, et si vous le partagez, bien vous devriez vous régaler. Oui, c'est vrai qu'effectivement, de toute façon, il sera encore à la présidence. Ce ne sera qu'au mois de janvier que madame ou monsieur prendra les rênes de ce grand pays. Alors, maintenant, la bande-annonce de la semaine prochaine. J'ai le livre sous la main, j'ai commencé à le lire. C'est le livre de Florence K. qui s'appelle « Buena Vida ». Florence K, qui, nous dit-on, en quatrième de couverture, a vécu une enfance de saltimbanque, elle qui a baigné dans la musique, dans les tournées. Et dans Buena Vida, cette jeune femme, oui, parce qu'elle est encore jeune, Florence K, livre un récit qui est rempli d'humanité, de musique, de voyage. Elle dévoile une partie de son existence qu'elle surnomme l'abysse. Parce que sa vingtaine a été parsemée de grandes joies entre le bonheur de la maternité et celui d'avoir réussi à faire de la musique son gagne-pain. Mais Florence est aussi passée par un espèce de trou noir qui a bien failli l'engloutir et duquel elle est sortie encore plus amoureuse de la vie. Alors c'est en toute transparence qu'elle nous partage sa descente aux enfers et sa renaissance, car la vie, c'est tout ce qu'on a, écrit-elle. On peut en écouter un petit bout tout de suite, mais je peux déjà vous lire en même temps qu'on écoute ça quelques mots du tout début de ce livre-là qui dit « Nous sommes le 30 octobre 2011. Lentement, j'enfile la robe de paillettes blanches et les escarpins. Je prends ma trousse de maquillage dans mon sac et tente de me remémorer tant bien que mal la technique que la maquilleuse de chez Chanel m'a enseignée avant mon départ. » Une heure plus tard, je suis présentable. Je vais devoir puiser encore dans mes réserves pour l'heure qui suit. On me donne mon belt pack, mon micro, mes écouteurs. Je me dis intérieurement que c'est ridicule, que ça ne sert à rien, puisque je ne ferai que bouger mes lèvres. Quand c'est trop gros, on doit faire du lip-sync, paraît. Mais alors pourquoi m'ont-ils engagé? Ricky Martin passe devant ma loge avec son entourage. Il arbore un sourire magnifique et affiche sur son visage une joie à toute épreuve. Je donnerais n'importe quoi en ce moment pour être lui. Ou n'importe qui d'autre, je passe devant un miroir, j'évite mon reflet. La dernière personne que j'ai envie de voir pour l'instant, c'est moi-même. Told me I wanted to believe. For me, throwback. Voilà, Florence K, je ne vous dirai pas le titre de la chanson, ça me semble assez évident. Florence K, que je recevrai donc la semaine prochaine à l'émission Des livres pleins les oreilles. C'est le moment de vous faire part de titres en rafale. Je commencerai par vous redonner les titres de livres d'Anne-Marie Sicotte qui sont disponibles via le SQLA. Alors, il y a d'abord deux biographies, celle qu'elle a consacrée à Marie Gérin La Joie, la féministe. Alors, ça s'appelle simplement Marie Gérin La Joie. Et il y a également celle qu'elle a consacrée à son grand-père, Gratien Gélinas, La ferveur et le doute. C'est en deux tomes. Une biographie, hein, elle nous le disait tout à l'heure, absolument sans complaisance. Elle nous présente qui était le vrai Gratien Gélinas, qui parfois utilisait des nègres pour écrire, ou Gratien Gélinas qui avait pas mal de maîtresses à droite et à gauche. Vraiment, c'est... Oui, oui. Alors, elle nous dit les choses telles qu'elles sont, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne respectait pas ce prodigieux grand-père, mais... Elle nous le présente dans ce livre, Gratien Gélinas, La ferveur et le doute, 1 et 2, tel qu'il était. Également, quelques romans de Madame Anne-Marie Sicotte. Alors, Le pays insoumis et les tuques bleues, ça fait partie de la fabuleuse histoire des patriotes. Et puis, il y a surtout cette série qui l'a révélée au grand public, Les accoucheuses, ça c'est en 3 tomes. Et vraiment, pour en savoir beaucoup plus sur la place des femmes, sur les débuts du féminisme, sur ces mères courage qu'étaient ces sages-femmes-là, ne manquez pas ce livre, Les accoucheuses. Voici un livre dont j'ai parlé la semaine dernière, mais tellement brièvement que je voulais revenir dessus. Ça s'appelle « Le doute » de S.K. Tremaine, ça s'écrit T-R-E-M-I-Y-N-E. L'histoire. Un an après le décès accidentel de Lydia, l'une de leurs filles jumelles, Angus et Sarah Moorcroft, décident de tout recommencer en changeant d'environnement. Ils rejoignent alors une petite île écossaise qu'ils ont héritée de la grand-mère d'Angus. Mais l'emménagement ne se passe pas aussi bien que prévu. Kirsty, leur fille survivante, se met à affirmer qu'elle est en réalité Lydia. Alors qu'un brouillard glacial enveloppe l'île, tel qu'on peut l'imaginer, dans ces paysages d'Écosse, l'angoisse va grandissant. Que s'est-il passé en ce jour fatidique où l'une des deux sœurs a trouvé la mort ? Pape François, cette économie qui tue, la dictature de la finance, d'Andrea Tornielli, T-O-R-N-I-E, 2-L-I. Il a suffi de quelques phrases du pape François contre l'économie qui tue et la dictature de la finance pour que des groupes catholiques américains le traitent de pape marxiste. Cette accusation se répand aussi dans l'ensemble du monde catholique face à ce pape qui rappelle simplement des bases théologiques que beaucoup de catholiques semblent avoir oubliées, celles de l'attention aux pauvres. Les auteurs s'interrogent sur l'évolution de l'Église catholique qui se poursuit en décalage avec les propos de son chef de file en train de travailler à son encyclique « Les pauvres » et la création. Ils observent de la part d'une certaine partie des catholiques et malgré ce pape pourtant très populaire, très médiatique, un éloignement du message des pères de l'Église qui, il y a quelques années, pouvait paraître bien plus virulent. Ce livre porte donc sur le magistère social de celui qui est souvent appelé le pape des pauvres. Pape François, cette économie qui tue. Prisonnière de sa propre vie de Jacinthe Bélanger. C'est une œuvre à la fois déroutante et inspirante. Mimi, c'est une vie entière dans un corps qui ne répond pas et c'est une vie à dépendre des autres, sans caresse, sans regard tendre. C'est une vie de préjugés, de rejets et de pitié. Et pourtant, Mimi, c'est aussi du bonheur, de l'amour et du positif à l'état pur. Coincée dans un corps dont la myotrophie spinale s'est emparée, Mireille entame un long périple avec une persévérance et une force extraordinaires. Appuyée de sa famille, elle va de victoire en défaite, de bonheur en souffrance, d'espoir en déception. L'auteur partage avec générosité l'histoire difficile mais ô combien inspirante de sa sœur aînée. Au-delà du récit biographique, son œuvre est une source d'espoir et de conseils pour les gens dont la vie est touchée, directement ou non, par une maladie ou une mobilité réduite. Son message, vous n'êtes pas seul. Prisonnière de sa propre vie, de Jacinthe Bélanger. Une énorme brique maintenant que j'ai dans la main, d'ailleurs un autre 700 pages pour cette semaine. Au mois de novembre 1953 débute le procès retentissant de Pauline Dubuisson, celle que Philippe Jaenada, J-A-E-N-A-D-A, appelle la petite femelle. C'est le titre de ce bouquin. Cette femme accusée d'avoir tué de sang-froid son amant. Mais qui est donc cette beauté ravageuse dont la France entière réclame la tête? Une arriviste froide et calculatrice, un monstre de duplicité qui a couché avec les Allemands, a été tondu avant d'assassiner par jalousie un garçon de bonne famille, ou n'est-elle au contraire qu'une jeune fille libre qui revendique avant l'heure son émancipation et questionne la place des femmes au sein de la société ? Personne n'a jamais voulu écouter ce qu'elle avait à dire, elle que les soubresauts de l'histoire ont pourtant broyé sans pitié. Alors, telle une enquête policière, la petite femelle retrace la quête obsessionnelle que Philippe Jaenada a menée pour rendre justice à Pauline Dubuisson en éclairant sa personnalité d'un nouveau jour. Voilà, c'est avec cette suggestion que je vous abandonne pour cette semaine, mais pour mieux vous retrouver la semaine prochaine avec Florence K, je vous le rappelle, je voudrais remercier, pour une fois que j'ai le temps largement de le faire, l'équipe qui travaille avec moi. Je pense à Anne-Laure Janson. Et puis je pense aussi à Jean-Sébastien Laliberté et éventuellement à Mathieu Tessier. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle semaine, bonne lecture et à la semaine prochaine. Au revoir.